Trisac. L'original. Radio Cube. Trisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon vendredi 26 novembre 2021. J'espère que vous allez bien. À midi et quart, on va parler des inondations qui ont lieu en Colombie-Britannique. C'est pas terminé, à Terre-Neuve. Et je pense pas que le Québec soit à l'abri de ce genre de catastrophe naturelle. Et aussi, à 11h15, on aura avec nous le maire de Roberval, un autre décès sur une route qui était considérée comme dangereuse. Puis on avait averti le ministère des Transports, puis le ministère des Transports, ben, ça a pas l'air que c'était important. Les naninières ont décidé de mettre des lampadaires puis une voie de pour doubler. Mais on parle de plusieurs accidents sur une période de 20 ans. On va revenir sur la question parce que hier, on l'a entendu avec deux maires et un ancien maire. Le ministère des Transports est d'une arrogance et d'une condescendance envers les maires qui déposent des demandes, des plaintes et auxquelles on ne répond pas. Mais tout d'abord, on a avec nous le ministre des Finances. Le ministre des Nordiques, Éric Girard. Monsieur Girard, bonjour.
Bonjour.
Bon, écoutez, Monsieur Girard, on va parler de la mise à jour dans un instant, là, puis je pense qu'on connaît pas mal les détails, mais juste avant, ce matin, vous avez vu ça, là, l'Europe, le Royaume-Uni, Hong Kong, Israël imposent des restrictions aux ressortissants de l'Afrique du Sud à cause du variant B11529, là, tu sais, le nouveau variant qui est encore plus contagieux que Delta. Puis je me disais, vos prédictions hier, là, ça dépend d'un retour à la normale?
C'est-à-dire que nos prévisions pour 2021 sont très solides parce qu'on est le 25 novembre. Vous comprenez que la majorité de l'année est derrière nous.
Ça, c'est fait.
Pour 2022, on prend un intervalle des prévisions des économistes du secteur privé. On est dans le bas de la fourchette. Il y a des risques à la hausse, il y a des risques à la baisse. C'est certain que ce matin, il y a des considérations au niveau de la pandémie. Et puis, si ça se matérialise, ça se complexifie, c'est un risque à la baisse important. Mais en même temps, il faut faire confiance à la science, l'Organisation mondiale de la santé, et puis on va voir comment ça évolue.
Ouais, mais en même temps, les marchés en Afrique du Sud ont chuté là, aujourd'hui là, à cause de ce nouveau variant. Puis là, il se répand. Il y en a deux en Belgique, il y en a Hong Kong, il y en a en Israël. Avez-vous un scénario économique si ce nouveau variant provoque de nouveaux confinements parce qu'on constate que les vaccins sont pas efficaces?
Ben, écoutez, lorsqu'on fait une prévision économique, là, il y a des risques à la hausse, il y a des risques à la baisse. On est conscient de ces risques-là. Les indices boursiers principaux sont en hausse de 25% cette année. Alors oui, ils sont en baisse de 2% aujourd'hui, mais moi, je peux pas changer notre plan économique pour les 5 prochaines années sur la base des fluctuations boursières quotidiennes. Là. Alors, l'Organisation mondiale de la santé surveille la situation, la santé publique du Québec, le Canada, et puis nous, on a un plan économique à long terme, on a des actions stratégique, et puis on va de l'avant, et puis on est conscient qu'il y a des risques. Là.
Mais basé sur un retour à la normale, parce que vous avez vous-même qualifié, M. Gérald, la reprise économique post-pandémie d'exceptionnel. Il faut que ça soit post-pandémie, qu'on sorte de la sacramouille de pandémie.
Oui, mais ce qu'on observe, c'est que la croissance mondiale en 2021 est synchronisée. C'est fort partout. C'est pour ça qu'on a de l'inflation. Ce qu'on constate, c'est que les gens, les entreprises, les institutions d'enseignement, les individus se sont adaptés. Chaque vague de pandémie a eu moins d'impact
que la précédente.
Épidémiologique. Moins d'impact. Chaque vague de la pandémie a eu moins d'impact économique. Alors là, je ne vous fais pas de prédiction sur la situation actuelle. On va s'ajuster, mais notre prévision dans l'ensemble est conservatrice.
OK. Vous attendiez finalement, M. Girard, un déficit d'à peu près 12 milliards. Vous annoncez un déficit de presque 7 milliards. Puis je me disais hier dans mon salon, quand je vous regardais en point de presse, je me disais, on pensait avoir le cancer, finalement c'est juste la COVID. C'est quand même 7 milliards de déficit, là, c'est pas rien.
Oui, mais c'est après contribution au fonds de génération. Là. Si vous prenez une définition traditionnelle des comptes publics. Par exemple, si vous vouliez comparer avec l'Ontario ou le Canada, on parle de plutôt de 4 milliards.
Non, mais
on contribue plus de 3 milliards au fonds de génération.
OK. Mais là, c'est quand même un déficit de 4 milliards. Puis malgré tout ça, vous arrivez, puis vous avez lu les journaux, j'imagine, on vous a fait un résumé là des journaux. On vous présente l'espèce... C'est drôle, hein? Vous êtes comme le Père Noël Grinch. Vous êtes avec des cadeaux, mais après Noël. Le Père Noël cheap, là, qui attend les ventes d'après Noël. Ça se peut-tu?
Ben moi, les citoyens sont intelligents. Là. Les gens ont dit qu'on donnait de l'argent pour des fins électoralistes. L'élection est en octobre 2022. Je pense pas que les gens vont voter pour moi en 2022 parce que j'ai donné 275 $ en janvier 2022. Les citoyens sont intelligents. Le régime fiscal est indexé de 2,6%. Or, l'inflation va être de près de 4%. Alors, on prend des décisions. On va aider 3,3 millions de personnes avec un paiement exceptionnel. On choisit aussi les 700 000 aînés de plus de 70 ans qui sont à faible revenu. On décide d'aider toutes les familles avec le crédit d'impôt pour services de garde non subventionnés.
Ça, c'est bon.
Je pense qu'on fait des gestes intéressants, réfléchis.
Je vais vous dire, on va commencer avec les fleurs, là, les bourses incitatives là, pour amener les gens à compléter leurs études puis à remplir des emplois qu'on a besoin de remplir. Je trouve que c'est une bonne idée. Là. C'est un incitatif. Il y a des conditions à ça. Il faut réussir ses études.
Ben, c'est des bourses à la persévérance. C'est-à-dire qu'à chaque session que vous allez réussir... Quand on va dire que vous avez réussi votre session, vous allez recevoir un montant. Et puis, c'est dans des domaines ciblés. On en a nommé 6.
Ouais.
Santé, éducation, services de garde dans le secteur, dans les services essentiels. Génie, technologie de l'information, construction dans le secteur privé.
Ouais. Donc, on paye les gens pour aller étudier.
Oui.
Puis ça, vous avez fait une étude, puis vous êtes dit, c'est rentable de donner de l'argent aux jeunes pour aller étudier, pour combler des postes à remplir.
Ben, écoutez, il y a souvent des débats de politique publique, là, mais s'il y a un sujet qui unit à peu près tous les chercheurs, hein,
ouais,
c'est que l'accès aux études supérieures, l'aide à la diplomation, la persévérance, la hausse des taux de diplomation, ce sont des bonnes politiques.
Coudonc, M. Girard, est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois vous a félicité, vous a remercié, parce que il nous a fait suer longtemps pendant un été là pour l'accès à l'université?
Moi, j'essaie de faire des politiques dans l'intérêt supérieur du Québec. Je constate, j'écoutais les demandes des partis d'opposition dans la, puis ils sont habiles, font toujours leur demande après que mon document est parti aux presses. Et je constatais leur demande, puis je pense qu'on a visé juste. On s'occupe de l'inflation, on s'occupe de la rareté de main-d'œuvre, on s'occupe des garderies. Et on s'occupe de la lutte à la violence armée avec le soutien aux organismes communautaires. Je pense qu'on a fait les bons choix comme gouvernement.
OK. Une autre explication de chiffres, là. 800 millions pour les chirurgies, là. Comment ça va fonctionner? Comment vous allez arriver? Parce qu'on a jeté de l'argent au système de santé sans avoir nécessairement les résultats escomptés.
Ben d'abord, mon collègue a dévoilé son plan. On parle de 125 000 chirurgies sur 3 ans. C'est à peu près une hausse de 10 % du rythme normal prévu. Et puis, moi, mon rôle, c'est de donner les moyens au ministre de la Santé et au ministre délégué aux services sociaux, la Santé et services sociaux, de leur donner les moyens. Alors, c'est ça qu'on a dans le cadre financier. 6 % de croissance l'an prochain, 5 % les années suivantes. Et tout le long de la pandémie, lorsque le ministre de la Santé m'appelle et il me dit qu'il a besoin de nouvelles initiatives, on est là pour le support.
Bon, là, M. Girard, là, j'ai des questions. La prestation exceptionnelle, personne seule, avec 5 ans, presque 51 000, là, vous offrez quoi, 275 $. Tout ça, là, tous les 3,3 millions de personnes qui vont recevoir 200, 275, 400 piastres, là. 400 piastres, c'est 8 piastres par semaine. On s'entend que c'est rien. Est-ce que ça vaut la peine collectivement de mettre quoi 740 millions pour donner des pinottes en fin de compte, parce que oui, il y en a qui vont dire 200, 275 piastres, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup quand on voit le prix des loyers, quand on voit le prix de l'alimentation. On règle rien avec ça, là.
Les aides s'additionnent, parce qu'on a aussi, par exemple, les aînés, c'est 400 $ par personne pour les personnes en difficulté. Et donc, ça peut aller jusqu'à 1 200 $ pour un couple, 675 $ pour une personne seule. Mais il faut dire que le régime fiscal est indexé de 2,6%. Alors, les allocations familiales sont indexées, les seuils de l'impôt sur le revenu sont indexés.
Non, mais c'est pas ça ma question. Est-ce que ça vaut la peine de mettre 740 millions pour offrir si peu individuellement au lieu de prendre cet argent-là puis d'avoir un objectif collectif, là, d'aider les banques alimentaires, par exemple, là, ou d'aider autre chose? Là. C'est une question que je me pose.
Ben, on aide les banques alimentaires. Le financement au soutien aux organismes communautaires est en hausse de plus de 10% cette année. Mais ce qu'on fait, là, c'est que nous, on a observé que l'inflation était plus haute que c'était attendu. On entend que le coût du panier de l'épicerie, de l'énergie, du logement, ça préoccupe les gens. Et par contre, lorsqu'on regarde les statistiques, le revenu disponible depuis la pandémie croît plus vite que l'inflation. Alors, dans l'ensemble, les gens sont corrects, mais on a décidé d'aider le 3,3 millions de personnes qui ont un revenu inférieur.
Mais M. Gérard, on s'entend-tu que 200$ là, en 2021, c'est rien? On s'entend-tu que vous avez pas dit un mot quand Hydro-Québec a augmenté ses tarifs de 2,6%, que vous avez pas dit un mot quand la SAC a augmenté pour une troisième fois cette année le prix de ses produits? Pourquoi vous donnez des peanuts, là, 200$, là, c'est 400$, c'est 8$ par semaine. Arrêtons de niaiser. Puis vous dites rien quand Hydro-Québec, qui se paye des primes au cadre sans arrêt, puis ils nous augmentent des tarifs, ça, vous dites rien. Puis après, vous arrivez, puis vous dites, c'est pas électoraliste de vous donner 8$ par semaine pendant un an. On peut juste parler sérieusement, là, de la façon qu'on gère ça?
Ben, si vous me laissez parler, on va parler sérieusement, là.
Ouais,
OK?
Ouais.
Le régime fiscal est indexé. Alors, c'est plus de 1 milliard qu'on met aux contribuables via l'indexation du régime fiscal. Les seuils de l'impôt du revenu sont rehaussés, les allocations familiales sont rehaussées, les prestations de solidarité sociale sont rehaussées. Tout ça, ça s'additionne. Ce qu'on vient faire, c'est une aide exceptionnelle, ponctuelle en janvier 2022. 400$ par couple, 275$ pour une personne vivant seule. Il y a aussi des mesures pour le soutien des aînés de plus de 70 ans à faible de revenus.
Ça, on le sait, M. Gérard.
Mais c'est parce que ça s'additionne toutes ces mesures-là.
Non, mais je comprends, mais c'est ce qui s'additionne, c'est les augmentations d'Hydro-Québec. Ce qui s'additionne, c'est les augmentations de la SAQ. Puis ça, c'est les comptes courants.
Okay, mais je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait le calcul, parce que moi, je suis économiste.
Envoyez-le.
On prend la mesure du panier de consommation.
Mm-hmm.
OK? 30 000$. OK? Puis là, on regarde, le régime est indexé 2,6%, mais la hausse du coût de la vie, c'est 4%. Alors, on compense pour la différence entre 4% et 2,6% sur la mesure du panier de consommation.
OK. Mais au lieu de donner des petits cadeaux, des peanuts, là, 200-275$, pourquoi vous dites pas Hydro-Québec? Savez-vous quoi? On va slacker les augmentations. C'est presque 3% cette année.
Les tarifs sont indexés. Ils sont indexés de 2,6%. Je sais pas pourquoi vous êtes contre ça. Le régime fiscal donne une prévisibilité. Les tarifs d'Hydro donnent une prévisibilité. Ils sont indexés avec l'inflation. L'année passée, quand l'inflation est inférieure, personne ne s'est plaint. Alors, on donne une prévisibilité.
OK. Vous avez 2 200 nouveaux logements abordables. Là. Vous voulez construire
oui.
ça? Avez-vous lu l'article hier, M. Gérard, dans la presse là, sur les rénovictions, le cas de Pauline Cauchefer, 24 ans, qui mettrait dehors des personnes âgées, handicapées, démunies. Là. C'est un cas là, que je vous cite. Pour des simili-rénovations puis pour crinquer les loyers par la suite. Y a-t-il une réflexion? Vous êtes les finances, là, c'est les comptes courants. Je sais que vous êtes économiste, puis moi, je suis un cabochon, là, mais c'est les comptes courants.
C'est pas ça que j'ai dit.
Ah, mais c'est ça que j'ai entendu, mais c'est pas grave.
Puis,
non, mais qu'est-ce qu'on fait face à ça? Qu'est-ce qu'on fait devant des crapules qui sortent des gens, des personnes âgées, là, qui se retrouvent pas un loyer au même prix parce qu'elles sont là depuis 20 ans, puis qui disent, on va faire des rénovations, puis finalement, ils en font à peu près, puis ils craignent les loyers. Y a-tu moyen d'intervenir à ce niveau-là? Parce que ça, là, c'est les dépenses mensuelles normales des gens.
Ben moi, j'ai donné des ressources à la régie du logement. La question que vous m'amenez, c'est la responsabilité de la ministre des Affaires municipales. Puis la situation que vous me dites particulière, non, je l'ai pas lue parce que hier, c'était la mise à jour, mais c'est extrêmement préoccupant. Je comprends ce que vous dites. Vous me parlez de gens qui abusent leur droit de faire des évictions lorsqu'ils font des rénovations. Alors, les gens ont des recours pour ça à la Régie des logements et je vous invite à inviter la ministre des Affaires municipales pour
Je comprends
comment ça fonctionne.
Non, je comprends, mais tu sais, les gens qui sont mal pris, là, les gens démunis, handicapés, âgés...
Ben, c'est notre responsabilité de les aider.
Mais en même temps, il y a des gens qui en abusent. Tu sais, je comprends que les maisons prennent de la valeur, mais quand on fait de la spéculation à ce point-là, puis qu'on utilise toutes sortes de prétextes pour expulser des locataires, pour craquer les loyers...
Ben, c'est pas acceptable.
200 000 emplois là, vacants à travers la province. Hier, je vous écoutais là, dire il y a des jeunes qui travaillent pas, qui étudient pas, on pourrait les rapatrier. C'est quoi votre plan de match pour combler ces postes-là?
Mais d'abord, notre plan de match... c'est parce que la rente, au même moment qu'on a plus de 200 000 emplois vacants, on a 250 000 personnes au chômage, on a 75 000 travailleurs d'expérience, toutes proportions gardées par rapport à l'Ontario qui travaillent de moins, on a les 200 000 jeunes que vous avez nommés, on a les nouveaux immigrants qu'on doit reconnaître les diplômes, les aider à l'intégration. Alors, c'est des problèmes qui sont complexes, qui nécessite une approche multidisciplinaire. Et ça, c'est le ministre du Travail, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui vont faire la déclinaison. Moi, j'alloue 3 milliards de dollars sur les 5 prochaines années pour ça, et mes collègues vont décliner la stratégie en détail. Il y a plusieurs mesures, plusieurs dizaines de mesures pour ça.
Parce que vous savez que Québec solidaire va vous dire, ben oui, mais faites rentrer plus d'immigrants.
Mais je pense qu'à 50 000 qui croient à peu près à 2 % par année, là, alors c'est facile à calculer, ça ferait 50, 51, 52. Je pense qu'on a trouvé le bon endroit. En même temps, on répond aux besoins de main-d'œuvre et on respecte la capacité d'intégration du Québec. Je pense que 40 000, c'est trop bas. 60 000, c'est probablement trop haut. 50 000 semble être le niveau juste. Et on va recevoir les 20 000 en plus qu'on n'a pas reçu l'année passée en raison de la pandémie. Alors, ça ferait 70 000 pour cette année.
OK. Avant qu'on se quitte, M. Girard, là, rapidement, là, comptez-vous vraiment mettre de l'argent dans une équipe professionnelle de hockey à Québec?
Moi, mon rôle, là, c'est de... La première chose, j'ai deux choses à dire dans ce dossier-là. Premièrement, le gouvernement est favorable au projet. Ça, c'est très important. Deuxièmement, le Québec a changé. On a plusieurs grandes entreprises publiques extrêmement solides. On a la Ville de Québec, la communauté urbaine de Québec est dynamique. Il y a plusieurs institutions financières extrêmement solides dans la région de Québec, plusieurs autres entreprises. Et donc, ce que je vais faire quand je vais rencontrer la Ligue nationale, c'est leur expliquer que le gouvernement est favorable, que l'économie du Québec est solide, que notre cote de crédit est meilleure que l'Ontario maintenant, qu'on voit favorablement le retour du hockey à Québec, et puis on va commencer avec ça, puis je vais voir quel est leur point de vue là-dessus.
Mais là, on parle de 700 millions, 750 millions pour une équipe professionnelle.
Et même plus. Parce que je regarde le prix où les Pingouins de Pittsburgh, il y a des discussions au niveau des Pingouins de Pittsburgh,
ouais.
Présentement, c'est plus que ça.
Et puis vous me dites qu'il y a une étude de marché qui confirme que ça serait rentable à Québec.
J'ai aucune étude de marché.
Rien?
En main. Je collige de l'information à ce stade.
OK, mais est-ce qu'il y aura des fonds publics dans une équipe de hockey professionnelle?
Mais on n'est pas rendu à structurer la tentative.
Mais dans votre tête, M. Girard.
Vous êtes en septième manche, je suis en deuxième.
Mais envoyez, là tu sais, la game, il faut qu'elle finisse un jour, là. Ça fait 15 ans que ça dure, que ça n'y a.
Ça fait 25 ans qu'ils sont partis, puis j'ai pas changé d'avis là-dessus. Il n'y aurait jamais dû quitter.
Ouais. Là, il y a M. Karmanos qui veut investir. Québécois veut investir. Est-ce que Bell veut investir? Est-ce que vous avez l'appui de grandes entreprises?
Bien, comme je vous dis, on n'est pas au point de structurer la transaction. Mais
vous le savez, vous ne voulez pas me le dire.
Non, mais prenez le TSX 60, là, les 60 plus grandes entreprises canadiennes.
Ouais.
Alors, regardez toutes les entreprises québécoises qu'il y a là-dedans. Ce sont toutes des entreprises solides.
Ouais.
Regardez les entreprises à Québec. On a, lorsque ce sera le temps d'assembler un consortium, on est capable.
Vous
le
croyez?
Québec a la capacité d'avoir une équipe de hockey.
Et pouvez-vous aller acheter une coupe de joueurs pour le Canadien? Ça ferait... Non, ça, on peut pas faire ça.
Écoutez, il y a peut-être je suis surpris de l'enthousiasme que ça génère.
Oui, hein?
Les gens sont passionnés, tout le monde m'en parle. Écoutez, hier, j'étais à RDI, au National, J'ai eu 6 minutes de questions chez Nordique la journée de la mise à jour.
À RDI? Pourtant, c'est des gens sérieux, ça, Radio-Canada, là.
Je suis surpris de l'intérêt que ça génère. Ça veut dire là. Que c'est populaire, c'est intéressant.
Ouais, ouais.
Puis, les Canadiens, bon, on leur souhaite tout le succès, là. Puis, chaque chose en son temps.
Oui, c'est ça. Parfait. Bon, ben écoutez, on va suivre ça. Éric Girard, ministre des Finances. Est-ce que ça se dit, ministre des Nordiques, ou ça vous choque?
Vous dites ce que vous voulez. Ça me fait plaisir d'être à votre émission.
Ah. Merci. Salut. Merci à vous.
Au revoir. Au revoir. Bye.